Une affaire criminelle peut-elle se résoudre 57 ans après les faits? C'est à cette question que les enquêteurs de la police judiciaire de Lille vont répondre ces prochains mois. Il y a quelques jours, un squelette a été retrouvé sur un chantier de piscine municipale à Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Des ossements qui pourraient bien être ceux de Fatima Abdeselam Tani. Cette jeune femme, alors jeune élève infirmière, s'était comme volatilisée. C'était le 4 juillet 1967. Elle venait tout juste de quitter le domicile de ses parents pour aller travailler. Depuis cette date, les enquêteurs n'ont jamais abandonné, tout comme la famille de Fatima. Cette découverte peut-elle faire avancer l'enquête, voire la résoudre 57 ans après? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice pour le site de BFMTV.com. Avec vous, on va revenir évidemment sur cette affaire et sur cette découverte. Et avec nous, Franck Danerol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de l'OCRVP, cet office central en charge des cold cases au sein de la police judiciaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous éclairer. Est-ce qu'une telle découverte, 57 ans après, peut permettre de résoudre une affaire? Ce sera évidemment passionnant de vous entendre. Mais d'abord, Justine, retournons en 1967. C'est là que tout va commencer. C'est en effet cette année-là que Fatima Abdeselam Tani disparaît.
C'était le 4 juillet 1967, précisément, vous l'avez dit, ce jour-là, cette jeune femme de 25 ans, qui est élève infirmière, quitte le domicile familial en fin de journée, on est aux alentours de 19h30, elle doit se rendre à l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant, l'établissement où elle travaille. C'est à une trentaine de kilomètres de voiture de son domicile, mais Fatima Abdeselam Tani n'est jamais revenue, elle n'est jamais arrivée à l'hôpital, elle s'est volatilisée et donc depuis 57 ans, sa famille cherche à obtenir des réponses.
Et pourtant, dès le début, dès sa disparition, il y a des moyens qui sont engagés, des recherches qui sont engagées. On se préoccupe de cette affaire.
Oui, très rapidement même, il y a un suspect. Un mois après la disparition de Fatima, c'était au début du mois d'août 67, un cousin de cette jeune femme est mis en examen. D'après la presse à l'époque, la dernière fois que la jeune femme a été vue, c'était à proximité de la fosse 5. Il faut, pour comprendre ce que c'est la fosse 5, se resituer dans ce territoire. On est dans le Pas-de-Calais, on est dans une région minière et à l'époque, les mines sont encore exploitées. Le cousin de Fatima travaillait justement dans l'une de ces mines à la fosse 5. Alors évidemment, ça apparaît comme une première piste pour les enquêteurs. Ensuite, la voiture de la jeune femme et des sous-vêtements lui appartenant ont été retrouvés à proximité de cette zone d'exploitation, dans une zone isolée. Et enfin, l'alibi du cousin en question a vite volé en éclats puisque la jeune femme qui disait être avec lui le soir de la disparition de Fatima est revenue très rapidement sur ses déclarations. Elle a raconté que ce soir-là, il était rentré très tard dans la nuit et que d'ailleurs ses vêtements étaient déchirés. Le cousin en question, un temps, il a été mis en examen, il a été incarcéré, mais il a toujours nié et on n'a jamais pu prouver, enfin les enquêteurs n'ont jamais pu prouver que c'était lui qui était impliqué dans la disparition de Fatima. Il n'a jamais été jugé pour ces faits et aujourd'hui il est décédé.
Depuis tout ce temps, évidemment, la famille de Fatima cherche à comprendre, à savoir ce qui est arrivé à Fatima. Leur première recherche, c'est d'abord de savoir où est le corps de Fatima.
Oui, tout à fait. La famille de Fatima, elle est restée mobilisée depuis plus d'un demi-siècle. Elle continue à chercher à obtenir des réponses. Et c'est notamment sa sœur, sa jeune sœur, qui était âgée d'une dizaine d'années à l'époque, qui continue le combat. En 2018, par exemple, elle disait espérer des témoignages tardifs, des gens qui pourraient se souvenir de quelque chose. Mais bon, ça date d'il y a plus de 50 ans. Pour l'instant, en tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas eu de témoignage tardif. Un an plus tard, donc on est en 2019, il y a eu des ossements qui ont été découverts. C'était dans un bois, le bois de Verdrel, c'est à proximité de Bully-les-Mines. Évidemment, les enquêteurs ont pensé que potentiellement, ça pourrait être Fatima. Ça a fait renaître l'espoir au sein de cette famille. Et en fait, il s'est avéré que ces ossements étaient en fait des ossements appartenant à des animaux.
Donc, beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions. Jusqu'au mois de juin dernier.
Oui, le 20 juin dernier, des ossements sont découverts sur le chantier de la piscine municipale de Bully-les-Mines. Une enquête a été évidemment ouverte, comme c'est le cas à chaque fois qu'on découvre des ossements. Et rapidement, l'hypothèse criminelle, elle est envisagée par les enquêteurs. Pour bien comprendre, on a retrouvé ces os qui sont, selon les premières analyses, des os humains. On les a retrouvés dans une sorte de champ, donc assez à l'écart d'habitation. Et ces os, ils étaient enterrés, mais assez profondément pour qu'on ne puisse pas penser qu'il s'agit d'un accident. Donc, face à tous ces éléments, évidemment, les enquêteurs ont envisagé la piste criminelle. Et dans un second temps, les policiers donc de la police judiciaire de Lille, qui sont en charge du dossier de la disparition de Fatima, ont fait un rapprochement avec donc la disparition de cette jeune femme. Le squelette qui a été retrouvé, il pourrait être celui d'une femme âgée entre 18 et 25 ans, donc ça correspond à l'âge de Fatima lors de sa disparition. Et le corps, les ossements qui ont été trouvés, étaient présents depuis environ 50 ans. Donc évidemment, c'est autant d'éléments qui coïncident avec la disparition de la jeune infirmière. Et pour conclure cette hypothèse, ce rapprochement, des disparitions comme celle de Fatima, il n'y en a pas non plus eu d'autres dans ce périmètre aussi restreint de Bully-les-Mines. Donc, fort de tous ces éléments, la PJ de Lille, la police judiciaire, travaille depuis plusieurs semaines sur cette hypothèse. Les ossements, eux, ils ont été envoyés dans un laboratoire de police scientifique à Marseille. Ils sont spécialisés dans la recherche d'ADN. Et d'ailleurs, un spécialiste, un chercheur me disait que c'était tout à fait possible de trouver de l'ADN dans ces ossements, même un demi-siècle plus tard. Et pour la famille de Fatima, qui s'est confiée à nos confrères de La Voix du Nord, ça serait vraiment un véritable miracle s'il s'agissait aujourd'hui de leur sœur.
Merci beaucoup Justine, évidemment cette affaire pose beaucoup de questions. Franck Danerolle, je vous resalue, merci encore d'être avec nous. Vous êtes le chef de l'ORCVP, donc cet office central qui travaille sur les cold cases au sein de la police judiciaire. C'est la police judiciaire de Lille qui est en charge de ce dossier. Vous allez vous apporter votre regard, votre expertise. D'abord, cette affaire Fatima, vous savez à quel point elle a marqué la police judiciaire de Lille. Ça reste une affaire qui a toujours été vivace dans l'esprit des enquêteurs.
Vous savez, les affaires de cette nature-là, elles marquent forcément l'esprit des enquêteurs parce que d'abord, ce sont des faits extrêmement graves. Le fait qu'ils soient non élucidés, c'est l'impression d'un travail non abouti pour un enquêteur. Puis il y a le contact sur le long terme avec les familles qui ravivent aussi l'engagement des enquêteurs dans ce type de dossier. C'est des dossiers qui sont forcément extrêmement marquants. Là, il faut quand même souligner que forcément, il y a plusieurs générations d'enquêteurs qui se sont succédés. Et donc là, il y a aussi un passage de témoins qui a souligné.
C'est aussi la continuité du travail des enquêteurs, effectivement, à travers les générations. Il y a donc ces ossements. Partons de là. La première étape va être d'identifier pour savoir s'il s'agit, oui ou non, de Fatima.
Complètement, oui. Il faut essayer de donner une réponse déjà sur cette identité de ce squelette. Alors, c'est possible, mais pas certain, de pouvoir donner cette réponse. Ça dépend de pas mal de facteurs. Le médecin légiste, les anthropologues peuvent nous aider déjà à donner des réponses, savoir s'il s'agit du squelette d'une femme ou d'un homme. Ça dépend de certains facteurs. Est-ce qu'on a, par exemple, le bassin du squelette ou pas? On peut dater la mort avec une certaine certitude pour dire que c'est un squelette médiéval ou de la Première Guerre mondiale, mais ensuite l'amplitude des années quand on est sur un temps plus récent, c'est déjà plus difficile à être précis. L'âge au moment de la mort, c'est aussi un point important. On distingue facilement un squelette d'enfant, de personnes âgées, d'adultes, mais voilà, les fourchettes d'âge sont aussi plus difficiles à déterminer quand on est sur des âges adultes.
Toutes ces avancées, elles sont dues à la science. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès qui permettent de travailler sur ces ossements avec l'espoir de régler les hypothèses et les questions que vous souleviez à l'instant. Pour des enquêteurs de police judiciaire qui spécialisaient sur les cold cases, la science aujourd'hui, c'est l'atout majeur.
Oui, alors c'est un atout très très important de la science pour nous. L'étape après, ces constatations de terrain qui sont scientifiques aussi, hein, ça va être bien sûr de solliciter les experts du laboratoire de police, en l'occurrence celui de Marseille, pour pouvoir essayer d'identifier un ADN dans ces ossements. Alors là, c'est pareil. On a une chance d'avoir des éléments d'ADN dans un ossement, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Qu'est-ce que vont rechercher les experts ? Un ADN nucléaire, l'ADN qui est dans le noyau de la cellule. Si on arrive à avoir un ADN nucléaire, on peut le comparer avec l'ADN de la victime si on l'a, ou celui de ses proches, là ça va être plutôt celui de ses proches, et on va pouvoir, à 99,99%, dire c'est cette personne. Maintenant, si l'ADN est un peu dégradé, on a quand même des espoirs de pouvoir donner des débuts de réponse. Par exemple, on peut chercher un ADN mitochondrial, qui est l'ADN que vous récupérez, que vous héritez de votre mère. Et donc, cet ADN-là, vous allez pouvoir le comparer. Mais là, la probabilité qu'une autre personne puisse avoir le même ADN est un peu plus forte qu'un ADN nucléaire. Et donc, il faut d'autres éléments d'enquête pour corroborer l'identification de la victime.
Première étape, donc, identifier la victime. Et puis ensuite, essayer de déterminer ce qui est arrivé à Fatima, s'il s'avère évidemment que c'est Fatima. Est-ce que là aussi, ces ossements pourront, si c'est bien ceux de Fatima, nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé ?
Alors oui, effectivement, la découverte du corps dans le cadre d'une disparition, c'est forcément un événement très important de l'enquête, une étape très importante de l'enquête. Pourquoi ? Parce que quand on part sur une disparition criminelle, on n'a pas de scène de crime, on n'a pas d'éléments qui peuvent expliquer les faits, et donc on est, en tant qu'enquêteur, dans un grand flou. Les témoignages permettent de corroborer l'emploi du temps de la victime. On peut avoir pas mal d'éléments qui permettent de savoir ce qui s'est passé un peu avant, mais en revanche, l'après, le moment de la disparition, on a plus énormément d'éléments. La découverte d'un corps, ça permet d'abord de confirmer la mort, tout simplement. Ensuite, éventuellement d'avoir des éléments sur les causes de la mort. On peut trouver des indices sur les os, on peut avoir des éléments autour de la scène de crime qui donnent un petit peu le contexte. Le lieu de découverte, la datation de la mort, ce sont aussi des éléments qui peuvent, mis en relation avec les autres éléments d'enquête, apporter des pièces au puzzle. Voilà, donc c'est forcément un moment important dans une enquête de disparition quand on découvre le corps.
Est-ce que si on confirme que c'est bien Fatima, les enquêteurs vont reprendre l'enquête quasiment depuis le début en se disant « Ok, maintenant on a un lieu, on a un corps, il faut tout réexaminer, les témoignages de l'époque, peut-être aller voir d'autres personnes. » Il y a une enquête de terrain qui redémarre à ce moment-là.
Alors, encore une fois, je ne peux pas m'exprimer sur ce que vont faire les enquêteurs dans ce dossier-là. C'est à eux et à l'autorité judiciaire qui les mandate de le faire. Mais oui, effectivement, il est toujours important dans un cold case de reprendre régulièrement les éléments d'enquête et de les confronter aux nouveaux éléments pour pouvoir faire progresser les investigations. Si ça n'a pas pu sortir, être élucidé à l'époque, c'est parce qu'on arrivait à des fins de piste. Et ces nouveaux éléments vont permettre peut-être de relancer un ou plusieurs éléments de l'enquête antérieure. Donc il y a ce travail de relecture, ce travail de se remettre en perspective tous ces éléments nouveaux.
On est frappé que 57 ans après, on puisse découvrir un corps, relancer une affaire. Et ça arrive de plus en plus souvent. C'est la science, c'est le travail des enquêteurs, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, tous les cold cases potentiellement peuvent être réouverts, peuvent avancer, il peut y avoir des découvertes. On a vraiment avancer sur ces questions-là ?
Alors, moi, en tant que chef d'un office central qui est en charge des cold cases, et qui est en charge donc, non pas du traitement de l'enquête pour tous les cold cases, mais d'animer, coordonner le travail des enquêteurs sur cette thématique-là. Et puis de prendre en compte quelques cold cases particuliers aussi, hein, bien sûr. On sait qu'il y a un très grand nombre de cold cases et que donc, voilà, la science peut permettre des progrès, mais il y a en même temps un très grand nombre de dossiers qui sont classés, qui sont à relancer. Et à mon sens, la première chose à laquelle on doit penser, c'est de prioriser les cold cases et de prioriser ceux qui ont le plus de chances d'être résolus. Parce que la science, parce qu'une technique de travail peut permettre d'avoir une avancée significative. On fait ce travail d'analyse avec le pôle des crimes sériels ou non élucidés qui est à Nanterre et qui lui aussi donc ne traite pas tous les dossiers de cold case, mais en revanche va avoir ce regard pour identifier ceux qui sont les plus susceptibles de bénéficier d'une plus-value que nous on peut apporter, que eux peuvent apporter.
Ça dépend de la science, ça dépend aussi des éléments du dossier, de choses qui sont restées en suspens, d'hypothèses, ça dépend de quoi ?
Alors c'est ça, ça dépend des éléments qui sont dans l'enquête, effectivement. Il y a un aspect aussi qui est à prendre en considération, parce que ça peut aider à une élucidation, c'est sa possible inscription, ce fait criminel, dans une sérialité. Élucider un fait unique, on va avoir les éléments de preuve de ce fait unique. Si on arrive à établir qu'il s'inscrit dans une sérialité de faits non élucidés, on va pouvoir, en récupérant les éléments d'enquête des différents faits singuliers, peut-être orienter l'enquête, trouver une piste.
Je voudrais qu'on dise un mot peut-être des familles qui attendent beaucoup de votre travail, du nouveau pôle de Cold Case de Nanterre. À la fois, il faut leur donner d'espoir et en même temps, comme vous le disiez, relativiser tout ce qui sera possible ou non, mais c'est pour elles que tout cela est enclenché, de leur dire qu'un jour, peut-être, on arrivera à répondre à leurs questions.
C'est vrai que les victimes, quand elles sont encore en vie, parce qu'on a des cold cases sur des affaires de viol, les familles des victimes sont au cœur des préoccupations des enquêteurs, des magistrats. On a besoin de leur donner une réponse. Mais j'allais dire que ce n'est pas le seul élément de motivation pour les enquêteurs. En fait, quand on discute avec les enquêteurs qui sont en charge des cold cases dans mon service, mais aussi les services enquêteurs dans les territoires qui ont eux aussi des dossiers comme ça, il y a une énorme motivation. Il y a un engagement très fort. Au-delà du travail au quotidien qu'ils peuvent avoir, ils s'engagent des fois sur leur temps personnel pour pouvoir traiter ces dossiers-là. Et qu'est-ce qui les mobilise ? Alors, les familles, ça c'est certain, ce contact, parce qu'il y a quelque chose un lien très humain qui se noue avec ces personnes-là et on a envie de leur donner une réponse. Mais il y a aussi, donc, ce que je disais tout à l'heure, ce devoir d'aller au bout de l'enquête et de ne pas rester sur un fait non élucidé, un travail pas abouti. Il ne faut pas oublier aussi qu'un crime non élucidé, c'est un criminel qui est dehors. Et donc, l'interpeller, le mettre devant la justice, c'est aussi notre devoir pour pouvoir éventuellement l'arrêter, l'empêcher de commettre d'autres faits. Et puis, je pense que c'est cette motivation-là. Puis je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui motive fortement dans ces dossiers-là, c'est que ce sont des dossiers hors normes par leur gravité, par le fait que les techniques de travail habituelles n'ont pas abouti. Et en fait, très souvent, ces dossiers-là, ils sortent parce que on va avoir quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel. La science va nous aider, un progrès de la science, ou alors une technique très innovante d'enquête, des psychocriminologues qui vont nous aider à investiguer, une coopération internationale. Donc on a toujours quelque chose. C'est toujours un exploit en fait ces dossiers-là.
Merci beaucoup, merci Franck Danerolle d'être venu nous voir, merci Justine Chevalier. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est à retrouver évidemment sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.